Europe 1.
Le jour se lève sur le désert. Le soleil vient d'apparaître au-dessus des montagnes qui bordent la mer Rouge et qui forment au loin un ruban sépia sur la ligne d'horizon. Les rares paysans qui peuplent la région ont rejoint leurs champs que le Nil tout proche recouvrait encore ces jours-ci. C'est le début de la saison appelée Pérette, celle de la décrue du fleuve et de l'émergence des terres. Cette journée qui commence pourrait être semblable à toutes les autres si un événement inouï ne s'apprêtait à survenir. Aujourd'hui, en effet, escorté comme le veut le protocole d'une garde importante, Pharaon doit venir, accompagné de son épouse, pour visiter ce site qui, jusqu'à présent, n'a intéressé aucun de ses prédécesseurs. Cette scène se déroule il y a quelque 3400 ans, dans les années 1350 avant Jésus-Christ. L'Égypte est alors dirigé par Amenhotep IV. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Les noms de certains pharaons nous sont très familiers. Que ce soit Ramsès, Khéops, Khéphren ou encore Toutankhamon, bien sûr, qui ne régna guère, mais qui doit son entrée en fanfare dans la postérité à la miraculeuse découverte de son tombeau intact en 1922. Côté femmes, les noms qui nous viennent sont bien sûr Hatshepsut ou Cléopâtre. Mais le pharaon, auquel nous allons nous intéresser dans ce nouvel épisode en deux parties, fait figure de comète dans l'histoire de l'Antiquité égyptienne. Ce grand mystique qui allait bouleverser l'Égypte le temps de son règne se nommait Amenhotep IV, Amenophis IV en grec ancien. Il serait à l'origine de la première forme de monothéisme de l'Antiquité. Le nom sous lequel il est entré dans l'histoire, il le choisit lui-même, Akhenaton. Pharaon de la 18e dynastie, Amenhotep IV est un adolescent, à la silhouette gracile, aux manières raffinées. Son épouse Néfertiti est déjà célèbre pour son incomparable beauté. En témoigne son nom, Néfertiti, qui signifie « la belle est venue » ou mieux encore « la parfaite est arrivée ». Elle est une grâce, un charme envoûtant, une apparition. Elle règne à part entière avec son époux, exerçant auprès de lui un important pouvoir religieux et politique. Les deux époux tiennent à apparaître ensemble le plus souvent possible, et surtout dans les déplacements officiels. En ce jour de Pérette, les paysans voyant passer le cortège interrompent leur travail, saisis d'admiration, de respect et de crainte. Que vient donc faire Pharaon, Dieu vivant, dans cet endroit perdu, loin de tout? Amenhotep IV a été couronné 2 ans auparavant sous le nom de Rouhen-Ré Néferkhépérouré, que l'on peut traduire par « unique de Ré » ou « les transformations de Ré sont parfaites ». Ré, que nous avons longtemps appelé improprement Ra, désigne la divinité solaire. Associée à Amon, le dieu caché, le dieu inconnaissable, Ré est au centre du panthéon égyptien depuis des millénaires. Le règne d'Amenhotep IV a déjà été précédé par 2 millénaires de civilisation. Pour lui, la pyramide de Khéops, dont le revêtement de calcaire poli doit encore étinceler comme un miroir, n'en est pas moins une antiquité qui appartient déjà à la nuit des temps. Elle est aussi éloignée de lui que nous le sommes, nous, de l'époque de Charlemagne. Pour l'heure, Amenhotep IV n'est donc qu'un pharaon parmi quelques centaines d'autres. Son nom l'associe étroitement au dieu des dieux, Amon. De fait, Amenhotep signifie « satisfaction d'Amon ». Le site qu'il honore de sa divine présence, je l'ai dit, n'a en apparence rien de particulier ni rien pour plaire. Amenhotep a pourtant décidé d'y bâtir une nouvelle cité. Mieux même, il souhaite faire édifier en ce lieu précis la nouvelle capitale de l'Empire. Il a choisi ce lieu parce qu'il se trouve à mi-chemin entre Memphis, capitale de l'ancien empire, et Thèbes, capitale du nouvel empire. Souvenons-nous pour nous situer que Memphis est au nord, près de l'actuelle ville du Caire. Thèbes est au sud, à quelques 200 km de l'actuel barrage d'Assouan. Amenhotep veut absolument un site vierge. Il a dans l'idée de retrouver Héliopolis, la dune primordiale qui, pour les Égyptiens, a surgi du chaos. C'est celle avant quoi il n'y avait rien. Ce qu'il cherche, oui, c'est un site qui ne soit encore dédié à aucun dieu. Pharaon veut baptiser sa nouvelle capitale Akhetaton, l'horizon d'Aton. Aton jusqu'alors est un dieu comme les autres, un dieu ordinaire. Alors que s'est-il passé pour qu'Amenhotep décide de lui dédier une capitale? Depuis plusieurs années déjà, certains changements sont apparus dans les cultes rendus à Amon-Ré, dieu des dieux. Amenhotep III, père d'Amenhotep IV, a fait introduire des hymnes qui changent la perception du dieu soleil. Jusque-là, durant des millénaires, les Égyptiens avaient adoré en lui un dieu inaccessible. Son existence était en quelque sorte abstraite, dépourvue d'incarnation. Or, dans ces hymnes nouveaux, voilà qu'Amenhotep III s'adresse au soleil en tant que présence tangible, presque palpable. Pour la première fois, son disque est évoqué comme un attribut majeur de sa divinité. Certes, il reste le dieu qui combat les ténèbres et apporte la vie sur la terre, mais il se fait soudainement plus proche des hommes. Et qui plus est, il va se révéler unique. On se retrouve désormais dans un monothéisme. C'est une véritable révolution religieuse.
Hommage à toi, auteur de toutes les formes, forme unique qui produit toutes choses, le un unique qui produit les êtres. Les hommes sont sortis de tes yeux. Hommage à toi, auteur de toutes choses. Les dieux courbés devant ta majesté exaltent les âmes de leurs créateurs. Ils te disent « Viens en paix, ô père des pères de tous les dieux ».
Amenhotep IV, même s'il n'a pas été, comme quelques-uns le supposent, co-régent de son père, a baigné toute son enfance dans ce climat réformateur. Il va se laisser atteindre par la lumière de ce dieu soleil, auparavant vague et inconnaissable, qui va de ses rayons le recouvrir de son amour et de sa beauté. Rayonnement, beauté, amour, trois mots qui reviennent inséparables les uns des autres dans les hymnes de son enfance. À quoi ressemble le site qui lui a été révélé pour accueillir la cité et le temple d'Aton ? C'est une bande de terre d'une trentaine de kilomètres située autour de l'actuelle ville d'Amarna. À l'époque, cette terre est au milieu de nulle part. Seul repère, elle est bornée à l'est par une chaîne de montagnes en arc de cercle, l'actuelle chaîne arabique qui longe la mer Rouge et qui évoque le disque solaire à l'aurore. Pharaon désigne du doigt l'emplacement des 14 stèles frontières qui définiront les limites de la cité. 11 du côté de la rive orientale du Nil, 3 sur la rive occidentale. L'acte de fondation est daté. En ce 13e jour du 4e mois, saison Pérette de l'an 5 de son règne, il y a quelque 3400 ans, Akhenaton, qui n'a pas 20 ans, vient de bousculer d'un geste de la main à la fois auguste et nonchalant deux millénaires de tradition.
Thank you.
Amenhotep IV, à l'ancien de son règne, a changé son nom pour celui d'Akhenaton, agréable à Aton, ou aussi le bien-aimé d'Aton. Le jeune pharaon veut réformer la manière dont le culte est rendu à ce dieu qu'il veut unique et tout-puissant. La nouvelle cité d'Akhetaton sera édifiée selon des principes nouveaux et révolutionnaires. Les temples étaient jusqu'alors construits pour cacher aux tout-venants les cultes rendus par les prêtres. À présent, ils seront à ciel ouvert. Il faut que les offices soient célébrés sous le regard de Dieu et que tous, ou du moins le plus grand nombre, puissent y assister. Et surtout, il faut que Pharaon et son épouse y apparaissent comme centre de la liturgie. Nous l'avons vu, les pharaons étaient considérés comme étant de nature divine. À partir du règne d'Amenhotep III, le hiéroglyphe que nous traduisons par « Dieu » désigne le roi lui-même. Il n'y avait qu'un pas à franchir pour que son fils Akhenaton se définisse comme roi, fils de roi, Dieu, fils de Dieu. Dès lors, lorsqu'il apparaît aux yeux de tous aux côtés de la belle Néfertiti, c'est en quelque sorte Dieu lui-même qui se manifeste. Par sa présence, il est amour, force et beauté, attribut de ce soleil dont il est le fils en tant que dieu et le corrigeant en tant que roi.
À ton lever, tu fais croître toute chose pour le roi. Le mouvement s'empare de chaque jambe. Tu mets en ordre l'univers. Tu le fais surgir pour ton fils, issu de ton être, le roi de haute et basse Égypte. Vivant de l'harmonie universelle, le maître du double pays, fils de Ré, vivant de l'harmonie universelle, maître des couronnes Akhenaton, que la durée de sa vie soit grande, que sa grande épouse qu'il aime, la dame du double pays, Néfertiti, vive et rajeunisse pour toujours, éternellement.
Le jeune monarque a exacerbé la grandeur d'Aton. Il va dans le même élan exacerber la puissance du pharaon. Aton est un dieu muet. Il n'est perceptible que par son disque et sa lumière. Pharaon, lui, est un être palpable, doué de paroles. Il va se montrer comme le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Dans le nouveau sanctuaire d'Akhetaton, c'est toute la perception de la vie et de la mort qui va être bousculée. Depuis des siècles, on momifiait les morts. Les Égyptiens éprouvent de la répulsion pour le cadavre et la putréfaction. L'embaumement du corps leur donnait à honorer un corps régénéré comme promis à l'incorruptibilité. Eh bien, Akhenaton va proscrire la momification, désormais sujet d'aversion. Quant au voyage vers l'au-delà, il est tout bonnement ajourné. La vie après la mort n'est plus évoquée. Dans les textes de l'époque qui ont échappé à la destruction, la mort n'est d'ailleurs citée que très rarement. Et quand elle est mentionnée, c'est comme « absence de vie ». Dans le clergé, on s'interroge. Mais que va-t-on chanter si l'on ne chante plus la vie après la mort ? Sous le règne d'Aton, la glorification du Dieu unique et de son fils Akhenaton s'accompagne d'un désarroi perceptible dans les textes funéraires trouvés à Thèbes. De nos jours, on dirait que les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Voilà ce qui se dit désormais du royaume des morts, identifié à l'Occident, car l'Occident est l'endroit où le soleil se couche.
Ceux de l'Occident sont inaccessibles, et leur condition est difficile. Comme il est inerte, celui qui s'en est allé chez eux. Il ne peut même pas dire son état. Il repose dans sa place, seul, et l'éternité est auprès de lui dans l'obscurité. La demeure de l'Occident est profonde et obscure. Il n'y a ni porte, ni fenêtre, ni lumière pour éclairer, ni le vent du nord pour rafraîchir les cœurs. L'éclat du soleil n'y brille pas. Ceux-là y dorment pour toujours, à cause des ténèbres. Même en plein jour.
On le voit, le séjour 6 pieds sous terre, version Akhenaton, n'est pas de tout repos. Plutôt même franchement déprimant. Et ça ne va pas être du goût de tout le monde. L'homme a besoin d'espérance. Par ce refus de la momification, Akhenaton semble penser que l'au-delà n'existe pas. Seul compte la vie terrestre dans laquelle toute grâce ne peut venir que de lui. On ignore si c'est à la faveur d'un événement particulier qu'Akhenaton radicalisa son action en faveur d'Aton. Ce que l'on sait en revanche, c'est que durant des siècles, le clergé d'Amon s'était rendu propriétaire de plus de 80% des terres d'Égypte. Une bonne raison pour décider le pharaon à faire disparaître tout signe de l'ancien culte. Et de fait, il fait marteler dans les temples de Thèbes tous les cartouches contenant la référence à Amon. Et il fait même fermer purement et simplement certains sanctuaires. Pour chaque tombeau, il faut déléguer deux ou trois ouvriers chargés de faire disparaître les inscriptions désormais hérétiques. Dans la noblesse, quelques fonctionnaires vont changer de nom pour y inclure celui du nouveau dieu. Pour autant, en dehors des trois grandes villes sacerdotales que sont Memphis, Thèbes et Amarna, il ne semble pas que le culte d'Aton ait véritablement supplanté celui d'Amon. À Memphis d'ailleurs, les tentatives pour effacer le nom d'Amon des bas-reliefs se sont montrées timides. Quant au peuple, les découvertes effectuées régulièrement lors des fouilles montrent que les réformes engagées par leur pharaon n'avaient rien changé à leurs habitudes. Aux portes d'Akhétaton, on continue à célébrer le culte d'Amon. Comme si les stèles frontières établies par Akhenaton avaient du même coup décidé des limites de son rayonnement. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'histoire consacré à Akhenaton. Et attendez un instant, j'ai une suggestion pour vous. Si vos enfants, neveux ou petits-enfants sont aussi férus d'histoire que vous, nul doute qu'ils apprécieront un nouveau podcast d'Europe 1 Studio, Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. On y suit les aventures d'Amélia, une petite fille de 10 ans, et de Granny, une vieille antiquaire fantasque. Ensemble, elles voyagent dans le temps et rencontrent des personnages historiques comme Louis XIV, Joséphine Baker ou justement Akhenaton. Les premiers épisodes sont à découvrir sur europe1.fr, l'application Europe 1, et à écouter en exclusivité sur la plateforme de notre partenaire Deezer. Je suis certaine que toute la famille va adorer. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Je suis Clémentine Portier-Kaltenbach et l'épisode que vous venez d'entendre a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vatter. La bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1.